Soif d'autre chose.
Soif d'autre chose.
Une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.
Sur Radio Présence, très heureux de débuter ce début de soirée ensemble en direct sur Radio Présence. Vous nous écoutez à Toulouse sur le 99.9 et sur toute la région ex-Midi-Pyrénées. Avec moi ce soir, Louis-Marie. Bonsoir Louis-Marie.
Bonsoir Enzo.
Bon, comment ça va?
Très bien.
Ça faisait un moment qu'on s'était pas retrouvé. Pour ça, autre chose, il y a eu pas mal de rediffusions, mais bon, partiel oblige. On salue d'ailleurs tous les étudiants qui sont en partiel. On pense fort à vous et on vous accompagne par la prière. Ce soir, une émission. Louis-Marie, qu'est-ce qu'on a au programme?
Alors, donc, on a quelques chroniques comme d'habitude, animées par votre serviteur, et aussi un entretien avec notre invité, Monsieur Philippe Foureau, qui va nous parler de l'incarnation à travers différents regards, et ça va être très très intéressant. J'en suis sûr.
Ça le promet. En tout cas, voilà, 19h01 sur Radio Présence. Le programme est fait. Quoi de mieux qu'un peu de musique pour démarrer ensemble? Et un peu de musique pour démarrer cette soirée ensemble. C'est Francis Cabrel avec Encore et Encore. Et juste après, on vous retrouve, Louis-Marie, pour votre chronique. À tout de suite.
D'abord vos corps qui se séparent. T'es seul dans la lumière des phares. Et t'entends à chaque fois que tu respires comme un bout de tissu qui se déchire. Et ça continue encore et encore. C'est que le début d'accord, d'accord. L'instant d'après, le vent se déchaîne. Les heures s'allongent comme les semaines. Et tu te retrouves seul, assise par terre, bondir à chaque bruit de portière. Mais ça continue encore et encore. C'est que le début d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher. C'est toujours le même film qui passe. T'es toute seule au fond de l'espace. T'as personne devant. Même nuit que la nuit d'avant, les mêmes endroits, deux fois trop grands. T'avances comme dans des couloirs, tu t'arranges pour éviter les miroirs. Mais ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher. C'est toujours le même film qui passe. Seul au fond de l'espace, t'as personne devant, personne. Faudrait que t'arrives à en parler au passé. Faudrait que t'arrives à ne plus penser à ça. Faudrait que tu l'oublies à longueur de journée. Dis-toi qu'il est de l'autre côté du pôle. Dis-toi surtout qu'il ne reviendra pas. Et ça te fait marrer. Les oiseaux qui s'envolent, les oiseaux qui s'envolent, les oiseaux qui s'envolent. Tu comptes les chances qu'il te reste, un peu de son parfum sur ta veste. Tu avais dû confondre les lumières d'une étoile et d'un réverbère. Mais ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Y'a des couples qui se défendent sur les lames de ton plafond. C'est toujours le même film qui passe. Quelque chose vient de tomber
19h05 sur Radio Présence, Louis-Marie, première chronique aujourd'hui sur quoi ?
Alors, vu qu'on s'était pas vu lundi dernier, on va un peu revenir en arrière sur tout ce qui s'est passé, parce que la semaine dernière était quand même bien chargée, à commencer évidemment par lundi dernier, le 8 décembre, on a eu la solennité de l'Immaculée Conception, et comme chaque année, a eu lieu une belle procession depuis l'église Saint-Pierre des Chartreux jusqu'à la basilique Notre-Dame-de-la-Dorade, et il faut savoir aussi qu'on était là, hein, l'équipe de Radio Présence était là, Enzo peut me le confirmer. Et d'ailleurs, cette année, Enzo, quelles étaient les petites subtilités auxquelles on a eu droit pour cette procession ?
Ben alors, cette année, c'était un peu exceptionnel, on va dire que la paroisse suivante a mis le paquet. On a eu donc une arrivée de la Sainte Vierge en bateau sur la Garonne, accueillie par des très jolis fumigènes en bleu. Voilà, une arrivée assez impressionnante. Alors, on nous l'a dit en off, mais selon le curé de la paroisse suivante, il faudra être attentif à l'année prochaine, car ça promet d'être assez encore plus exceptionnel.
Ça c'est sûr, connaissant les curés de la paroisse suivante, on peut toujours s'attendre à des choses très grandes et très surprenantes, mais pour le coup très belles aussi. Et puis après évidemment, la procession s'est conclue par une très belle veillée de prière à la Dorade, comme chaque année, donc c'est un très bon moment, on était ravis d'y être. Et donc quelques petits mots aussi sur cette solennité, parce que c'est quand même très important. Donc c'est l'Immaculée Conception de Marie, évidemment, qui est donc exempte du péché originel, qui a été hérité par tous les hommes depuis la chute d'Adam et Ève. C'est un point de foi qui a été défini très concrètement par l'Église, de manière dogmatique, en fait, le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quelques années auparavant, en 1830, on a vu les apparitions de la rue du Bac, dont nous avons parlé il y a quelques semaines, où la Sainte Vierge faisait apparaître une médaille sur laquelle était inscrite « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». On y voit déjà un signe un peu providentiel, et puis aussi, après la proclamation du dogme en 1854, donc en 1858, on a eu les apparitions de Lourdes, où là, Notre-Dame s'est très clairement identifiée comme étant elle-même l'Immaculée Conception, donc on a quand même un endroit assez providentiel pour soutenir ce dogme, donc voilà pour le 8 décembre. Ensuite, vendredi dernier, le 12, nous fêtions Notre-Dame de Guadeloupe, encore une apparition mariale, qui elle est très très chère à tous les peuples d'Amérique du Sud, mais aussi partout dans le monde. À cette occasion, d'ailleurs, le pape a présidé la messe à la basilique Saint-Pierre, ce qu'il a aussi fait l'an dernier, lorsqu'il était encore que cardinal, donc c'est aussi un beau moment et un beau clin d'œil. Et donc, quelques mots un peu sur cette apparition qui a eu lieu au XVIe siècle, où Notre-Dame a invité un jeune paysan aztèque, Juan Diego, qui sera plus tard canonisé Saint Juan Diego, a invité ce jeune paysan à cueillir quelques, enfin ce paysan assez âgé à l'époque, pardon, cueillir quelques fleurs et les récolter dans son manteau. Donc c'était un manteau de tradition aztèque qui était un peu comme un très grand tissu qui s'appelle une tilma. Et la Vierge en fait a demandé à Juan Diego de cueillir ces fleurs pour attester un peu de la véracité de cette apparition, parce que les autorités ecclésiastiques de l'époque ne croyaient pas trop ce vieil homme qui avait soi-disant vu la Vierge. Donc les preuves à l'appui, il s'est rendu devant les autorités ecclésiastiques avec les fleurs qu'il avait cueillies, et au moment de laisser déplier son manteau, au lieu de voir des fleurs apparaître, tout le monde a été très surpris parce que il s'est retrouvé une image de la Vierge elle-même qui était imprimée sur le tissu qu'on peut encore d'ailleurs voir aujourd'hui dans la basilique qui porte son nom, de Notre-Dame de Guadeloupe. Donc ça a vraiment permis de convaincre tout le monde, et puis voilà, depuis on garde une très belle dévotion. Et on a pu fêter ça donc vendredi dernier. Et enfin dimanche, ça vous aura pas échappé, c'était dimanche de Gaudete. Et vous l'aurez très sûrement vu aussi, que les ornements étaient légèrement différents parce qu'ils étaient en rose. C'est une particularité liturgique qui a lieu seulement deux fois par an. Une fois pendant le carême avec le dimanche de Laetare, qui est le quatrième dimanche du carême. Et pendant l'Avent, avec donc ce fameux dimanche de Gaudete. Gaudete donc qui veut dire réjouissez-vous. Hein, même pour aller plus loin, Gaudete in Domino Semper, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et donc, pourquoi le rose ? Eh bien, c'est pour des raisons assez particulières. Après, c'est sujet à débat aussi. Mais on peut voir le rose comme un violet un peu éclairci par le blanc, qui est signe de la joie et de la lumière qui arrive avec Noël. Et pareil pour Pâques, d'ailleurs. Et donc voilà, ça vient un peu faire une pause dans ces temps-là d'anticipation et de préparation qui sont parfois un peu plus sobres et un peu plus austères. Et donc apporter un peu une touche de joie pour aussi nous préparer à ce qui arrive très vite. Et on se réjouit aussi par cette même occasion.
Merci beaucoup Louis-Marie, on se retrouve dans quelques minutes avec notre invité Philippe Fourreau, que vous connaissez, qui est aussi chroniqueur sur Radio Présence. Mais avant ça, une petite pause musicale avec Twess à Gloria de Jérusalem. Allons-y. De Jérusalem, c'est un chant espagnol consacré à la Vierge Marie. 15 sur Radio Présence, de retour pour vous accompagner pour ce début de soirée ensemble. Tout de suite, le grand entretien. Louis-Marie, aujourd'hui, nous accueillons Philippe Fourreau, maître de conférence à l'Université Toulouse de Jean Jaurès en histoire, professeur aussi au séminaire Saint-Cyprien, diacre permanent et surtout aussi chroniqueur sur Radio Présence.
Bonsoir Enzo, bonsoir Louis-Marie.
Donc oui, pendant cet entretien, donc on va parler un petit peu du lien historique entre la naissance de Jésus, la vie du Christ sur la terre et aussi évidemment le mystère de l'incarnation. Donc on va commencer très simplement en posant des bases très concrètes. Qu'est-ce qu'on sait historiquement du contexte de la naissance de Jésus ?
Je vais commencer en citant le grand médiéviste Marc Bloch. Marc Bloch était juif, agnostique, mais il a eu une phrase qui fait réfléchir tous les historiens du christianisme, puisqu'il avait dit « le christianisme est une religion pour historiens ». Et il partait du fait que, effectivement, dans la foi chrétienne, Dieu s'est fait homme. Et à partir de ce moment-là, effectivement, en se faisant homme, le Christ est entré dans l'histoire. Et ce qui est notable, c'est que si vous regardez les évangélistes, et si on lit attentivement les évangiles, ils se veulent souvent eux-mêmes historiens. Ils replacent dans un contexte le règne d'Auguste, le gouverneur Quirinius, Hérode le Grand, le tétrarque Hérode Antipas, que la vie publique de Jésus a commencé la 15e année du règne de Tibère. Bref, vous le voyez, il y a cette volonté de replacer Jésus dans un contexte historique. Et donc, ce contexte, pour le résumer rapidement, eh bien, Jésus est né sous l'empereur Auguste, sans doute aux alentours de 5-6 avant lui-même, si j'ose dire, avant Jésus-Christ. Il est ensuite entré dans la vie publique. Alors, les débats d'érudits hésitent entre 27, 28, 30. Et il a, en tout cas, parcouru ses terres de Galilée, de Judée, de Samarie, la ville de Jérusalem, à une époque où la puissance romaine administrait directement ou indirectement la région. Donc, nous sommes vraiment au début de ce qu'on appelait l'Empire romain avec la dynastie julio-claudienne, et il a été un sujet du roi Hérode, du roi Antipas, et puis il est passé devant le gouverneur, le préfet romain, Ponce Pilate.
Très bien. Et donc, concernant ces différentes sources-là, on a évidemment, comme vous l'avez dit, les évangiles, mais on a aussi des sources extra-bibliques, hein, si je puis dire, qui sont d'autres auteurs.
Oui. Alors, notre temps étant compté, je ne vais pas faire dans l'exhaustivité, mais je voudrais peut-être faire quelques citations. Et là, évidemment, je suis redevable de très nombreux historiens, exégètes, théologiens qui ont beaucoup travaillé sur cette question. On pourra peut-être donner quelques conseils de lecture tout à l'heure. Mais je voudrais partir, par exemple, de Flavius Josèphe. Flavius Josèphe, cet historien qui a écrit les Antiquités juives et la guerre des Juifs aux alentours de 90 du 1er siècle. Et voilà ce qu'il écrivait, et je vous propose en deux minutes de faire un peu l'exégèse de ce texte. Il écrit au livre 18 des Antiquités juives, paragraphe 63-64, « En ce temps-là, paraît Jésus, un homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme, car c'était un faiseur de prodiges, un maître des gens, qui recevait avec joie la vérité. Il entraîna beaucoup de Judéens et aussi beaucoup de Grecs. Celui-là était le Christ. Et quand Pilate, sur la dénonciation des premiers parmi nous, le condamna à la croix, ceux qu'il avait aimés précédemment ne cessèrent pas, car il leur apparut le troisième jour, vivant à nouveau. Les prophètes divins avaient dit ces choses et 10 000 autres merveilles à son sujet. Jusqu'à maintenant encore, le groupe des chrétiens n'a pas disparu. » Alors, ce texte, effectivement, a fait beaucoup couler d'encre et réfléchir les érudits, parce que il nous parle, effectivement, du Christ, mais honnêtement, il est indéniable qu'il a sans doute été retouché par un chrétien, parce que Flavius Josèphe est un juif pharisien. C'est un juif qui est resté fidèle à sa foi et à la foi de ses ancêtres, et Si vous prenez par exemple l'affirmation « celui-là était le Christ », là vous sentez dans cette source, voilà, dans cette source historique une patte chrétienne. De même, si toutefois il faut l'appeler un homme. Or, pour tout juif, Jésus, c'est tout simplement un homme. Et enfin, dernier exemple, « car il leur apparut le troisième jour vivant à nouveau », les prophètes divins avaient dit ces choses et 10 000 autres merveilles à son sujet, vous sentez bien là aussi la foi dans la résurrection, que n'avait pas Flavius Joseph. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que cet homme qui est capital dans notre connaissance du monde juif à l'époque de Jésus, évoque tout de même, effectivement, la figure de Jésus.
Et alors, justement, peut-on dater avec précision les grands moments de la vie de Jésus, sa naissance, sa mort? Parce qu'on entend souvent dans des cours d'histoire dire que non, zéro, l'année zéro n'est pas forcément l'année de naissance du Christ. Comment pouvons-nous avoir des précisions sur ça?
Oui. D'abord, il faut, je vais, Enzo, répondre, ou essayer de répondre à votre question, mais d'abord, il faut d'abord s'interroger sur une thèse qui, depuis le 19e siècle, s'est diffusée, c'est la thèse du mythe. C'est-à-dire, Jésus n'est pas un personnage historique, c'est un mythe autour duquel s'est construit une spiritualité, une religion, mais le personnage lui-même n'a pas de réalité historique. Bon. Et pour nos contemporains, il y a un intellectuel qui a repris cette thèse, c'est Michel Onfray, le philosophe, qui estime que Jésus n'a pas de réalité historique, et il fait de Paul finalement celui qui est l'inventeur, entre guillemets, du christianisme. Alors, sur cette question, il me semble, et après avoir lu beaucoup de spécialistes, qu'il y a un argument fort, c'est l'argument des polémiques juives. Il y a eu, en particulier au IIe siècle, des polémistes juifs qui ont chargé, si j'ose dire, Jésus. En particulier, bien sûr, ils ont cherché à décrédibiliser la question de la résurrection, ou même critiquant Marie et la nativité telle qu'elle était présentée. Or, s'il y avait eu un doute, aux yeux de ces polémistes juifs, de l'existence historique de Jésus, inutile de vous dire qu'ils l'auraient clairement dit. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas « Jésus n'a pas existé, c'est une invention », mais ils critiquent sa naissance, les conditions de sa naissance, de son activité publique, et bien sûr de la résurrection. Mais ce n'est pas remettre en cause l'existence. Et je pense que ça, c'est un argument important, parce que s'il y avait eu le moindre doute, il n'aurait pas hésité à utiliser cet argument. Alors, pour les questions que vous me posiez, alors la naissance, il semble bien qu'il faut remonter quelque peu la naissance du Christ. Alors, les érudits vont de 7 avant Jésus-Christ à 5, 4 avant Jésus-Christ. Ce qui est déterminant, c'est la mort d'Hérode le Grand. Parce que Hérode le Grand apparaît, par exemple, dans Saint Matthieu. Or, Hérode le Grand, par d'autres sources, dont Flavius Joseph ou Nicolas de Damas, qui a été un de ses secrétaires et qui a laissé une biographie du souverain, nous permet de savoir qu'il meurt en 4 avant Jésus-Christ, selon le compute chrétien. Donc en fait, si vous voulez, il faudrait remonter un peu la naissance de Jésus. Nous sommes plutôt en 2031-32 peut-être, au lieu d'être en 2025. Bon. Ensuite, la question de l'entrée dans la sphère publique, quand est-ce qu'il se met à parcourir ces routes de ce qu'on appellera la Terre Sainte. Effectivement, on hésite entre 30 et 33, peut-être 28, 30. Un des grands érudits qui s'est penché sur cette question, le père jésuite John Paul Meyer, dans un livre qui est capital pour le Jésus historique, son premier volume intitulé « Les sources, les origines et les dates », pencherait par exemple pour une mort en 30, plutôt qu'en 33. Alors, il faut pas être fétichiste des dates, parce que, effectivement, dans l'Antiquité, de toute manière, que ce soit les effectifs ou parfois les dates, peuvent être effectivement sujets à caution. Mais retenons l'idée que il est né vers 6, 7 avant Jésus-Christ, peut-être 5, qu'il est entré autour de la trentaine d'années dans la vie publique et qu'il a été exécuté, et pour les chrétiens, ressuscité, 30-33.
Et donc, justement, cette polémique juive de... On est sûr de la forme de l'existence du Christ, mais plutôt là où la question se pose, c'est le fond, justement, sur cette naissance dans la crèche, Bethléem, Nazareth, etc. C'est bien ça.
Oui, alors, je dirais que, par exemple, vous avez, Enzo, prononcé le mot crèche. Lisons les évangiles, la crèche n'apparaît pas. La ouais. crèche est une idée... auquel je suis très attaché, mais que l'ordre des franciscains a surtout développé au XIIIe siècle, dans la, je dirais, la piété populaire, effectivement. Bon, il n'y a pas le mot crèche dans les évangiles. Bon. Et d'autre part, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on regarde les évangiles, Marc et Jean ne s'intéressent pas à la nativité. Bon. Alors, je reviens aux polémiques juives. Un des points d'attaque des polémiques, si vous voulez, c'est la question de la naissance, la nativité par l'Esprit Saint. En fait, il y a toute une idée développée par certains polémistes juifs. En fait, Marie était une fille de mauvaise vie et elle a couché avec un centurion romain. Donc, si vous voulez, là, elle accumule les tares. Parce que non seulement elle est un peu jugée comme fille publique, et en plus, elle va avoir des relations amoureuses avec un officier de l'armée d'occupation romaine. Enfin, si vous voulez, le tableau est évidemment peu gratifiant.
Peu glorieux,
donc, c'est très assombri. Ouais.
Et donc, si vous voulez, là par exemple, ensuite, il y a une remise en cause, mais là nous sommes à la fin donc, de la vie publique, c'est la question même de la résurrection.
Très bien. Oui, donc concentrons-nous un peu plus sur la nativité, sur Noël qui approche. Là où il faudrait rester prudent, c'est éviter de tomber dans deux écueils. Le premier qui serait de réduire Noël à une simple légende, et l'autre de réduire Noël à simplement des dates et des faits. Et donc, comment est-ce que, à travers du coup ce contexte historique, on peut développer aussi sur des réalités qui sont un peu plus transcendante que seulement des faits historiques, mais quelle importance vient jouer aussi cet événement dans l'histoire du monde.
Alors vous avez raison, Noël pour les chrétiens, c'est à la fois un événement historique, au sens où effectivement, sous Hérode le Grand, Auguste étant empereur à Rome, il y a eu la naissance de Jésus. Mais évidemment, il me semble que si l'on se place d'un point de vue chrétien, c'est un événement qui dépasse le cadre de la naissance, c'est-à-dire c'est l'incarnation. Dieu fait homme. Et c'est pour cela que je voudrais prendre une minute pour peut-être m'expliquer sur une expression que l'on entend des fois. Vous savez, la religion du livre, les religions du livre. Je crois que, et je, évidemment je ne suis pas le seul à en être persuadé, je réserverai l'expression religion du livre au Coran et à l'islam, qui repose sur le Coran. Je réserverai donc pour le monde juif la religion de l'alliance, avec un grand A, l'idée qu'il y a ce lien particulier qui se tisse entre Dieu et les hommes, et je garderai donc l'expression liée à Noël, Dieu de l'incarnation, religion de l'incarnation avec le grand I, c'est-à-dire que Dieu fait homme. Et pour les chrétiens, il ne faut jamais se lasser de célébrer Noël, parce que on pourrait se dire tous les ans, le 24 décembre au soir, revient la fête de Noël, vous voyez, une espèce d'habitude. Absolument, or en fait, c'est quelque chose, je dirais, qui est... dans l'histoire vue d'un point de vue chrétien, et même sans doute au-delà, et quelque chose qui bouleverse tout, parce que Dieu s'est fait homme, ce qui est quand même une révolution spirituelle et historique.
Merci beaucoup pour cette première partie d'entretien qui était vraiment consacrée donc à la vie terrestre du Christ. On va faire une petite pause dans le thème de Noël. On va écouter Adeste Fideles qui a été enregistré en 2016 à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Puis on se retrouve juste après pour parler un peu plus de la vie spirituelle justement par rapport à Jésus. À tout de suite.
Et donc de retour dans Soir d'autre chose, on est toujours avec notre invité du jour, Monsieur Philippe Foureau. Et juste avant la pause musicale, nous parlions du coup du mystère de l'incarnation et de la vie de Jésus d'un point de vue plutôt historique. Et maintenant on va plutôt basculer du côté spirituel avec d'abord une question pour faire un peu le lien entre les deux. Cette question c'est de savoir est-ce que ces connaissances historiques liées à l'incarnation et à Jésus peuvent alimenter notre foi? Et si oui, comment?
Alimenter la foi, je le crois. Si l'on part du principe, effectivement, que les évangiles sont à la fois des témoignages de foi, mais aussi des livres qui se veulent inscrits dans une histoire, eh bien, je dirais que il faut les lire et il faut effectivement les méditer. Mais je dirais ça, c'est presque trop facile. C'est-à-dire, on pourrait se dire, les évangiles nous suffisent et nous n'avons pas besoin d'autre chose, y compris pour réfléchir à notre foi. Mais, si vous permettez, Louis-Marie, j'aimerais faire deux incursions avec des auteurs latins qui ne sont pas du tout chrétiens. Et vous allez voir qu'on peut tout de même en tirer des éléments de foi. Je cite, par exemple, Suétone, la vie de l'empereur Claude, dans sa vie des 12 Césars, le chapitre 25 et verset 4. Voilà ce qu'écrivait Suétone. Et qu'est-ce qu'on peut, nous, on peut en tirer sur le plan de la foi? Comme les Juifs se soulevaient continuellement à l'instigation d'un certain Christos, il, c'est-à-dire l'empereur Claude, les chassa de Rome. Alors effectivement, Suétone évoque la figure de Christos, c'est le Christ, autour duquel il y a des disputes entre Juifs. Eh bien, ça veut dire que, sur le plan de la foi, le choix d'être chrétien et de le vivre, je dirais, en vérité, n'est pas un choix simple et aisé. Et effectivement, le Christ, peut-être, il l'a dit lui-même, un élément des fois où il peut y avoir la division, il peut provoquer le débat, il peut provoquer la stupeur. Et le choix de la foi chrétienne n'est pas toujours simple et... En lisant Suétone, on voit bien que dans la communauté juive de Rome, aux alentours de 41-42, il y avait des débats qui faisaient que ceux qui acceptaient la foi dans le Christ, dans l'incarnation, avaient peut-être des heurts avec les autres membres de la communauté. Et puis, deuxième citation, j'aimerais vous citer Tacite, le grand historien latin. Dans les Annales, à son livre 15, vers chapitre 44, il écrit ce texte aux alentours de 110-120 et il parle de la persécution sous Néron. En conséquence, pour étouffer la rumeur, Néron produisit comme inculpé et livra aux tourments les plus raffinés des gens détestés pour leur turpitude que la foule appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christ que, sous le principat de Tibère, le procurateur Ponce Pilate avait livré au supplice. C'est un texte fort qui nous parle d'exécution de chrétiens. Mais je crois que le chrétien d'aujourd'hui, qui s'apprête à célébrer Noël, peut en tirer quand même des éléments importants pour sa foi et sa manière de la vivre. La foi dans le Christ, aujourd'hui, pour nous, elle peut paraître presque facile, banale. À Toulouse, les risques sont quand même minimes. Mais à ce moment-là, ces chrétiens, combien étaient-ils dans une ville de 800 000 habitants? Peut-être quelques centaines, qui ont été amenés jusqu'au supplice, puisqu'on les a accusés d'avoir mis le feu à la ville, qui était sans doute d'ailleurs un accident, soit dit en passant. Eh bien, ils ont fait le choix d'aller jusqu'au bout de leur témoignage. Et je dois avouer que il faudrait que nos auditrices, nos auditeurs pensent toujours à ces chrétiens qui, aujourd'hui dans le monde, vont fêter la nativité, mais dans des conditions qui ne seront pas aussi confortables que les nôtres. Il y a quelques jours, je lisais comme quoi, depuis 2011 et le début de la guerre civile en Syrie, la communauté chrétienne a baissé de 80%. Beaucoup sont morts ou beaucoup ont dû fuir. Donc, si vous voulez, la fête de Noël, c'est aussi l'occasion d'être vraiment en union de prière avec ces communautés dont l'histoire de Tacite nous rapporte les lointains ancêtres, mais qui sont toujours dans la difficulté de vivre pleinement, tranquillement, la nativité. Donc, vous voyez... J'ai voulu prendre ces exemples, ces citations tirées d'historiens latins pour montrer qu'elles peuvent elles-mêmes nous, je dirais, nous faire réfléchir sur notre propre engagement chrétien.
Et entièrement, parce que c'est vrai que personne ne meurt pour un mensonge, et c'est vrai que si ces gens sont allés au bout de leur vie, et encore aujourd'hui sont menés à la persécution, mais demeurent fidèles, c'est vrai que ça nous dit quelque chose quand même de la foi,
oui.
qui dépasse bien plus que ça les simples faits historiques, et on voit vraiment que il y a eu vraiment un avant et un après, et ça c'est indéniable, non seulement concernant les persécutions, mais de manière générale aussi, l'impact qu'a eu l'incarnation a quand même été retentissant, et se fait ressentir encore aujourd'hui. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur quelque chose qu'on avait évoqué en première partie. On parlait de la crèche, justement, qui a été une invention, si on peut dire, un peu tardive. Quel sens on peut donner, du coup, et pourquoi est-ce qu'on a eu ce besoin de développer ces spiritualités, entre guillemets, de la crèche?
D'abord, la question de la crèche, effectivement, peut être liée aussi à des textes, soit apocryphes, qui ont pu évoquer, par exemple, la présence de l'âne et du bœuf, ou des textes médiévaux comme la légende dorée qui a, je dirais, embelli la nativité. Et vous savez, je pense sincèrement que le chrétien encore aujourd'hui a besoin de ces signes qui, même si, je dirais, sur le plan historique, y avait-il vraiment l'âne et le bœuf, à la limite, peu importe, parce que c'est une manière finalement de les rendre. De rendre l'événement populaire au vrai sens du terme. Et c'est vrai que la crèche, bon, je vais enfoncer une porte ouverte auprès de beaucoup, mais enfin, quand en famille, on l'a fait avec les enfants ou les petits-enfants, et que l'on va mettre progressivement des bergers qui s'approchent, que le 24 au soir, on va mettre Jésus entre Joseph et Marie, eh bien, ce sont des gestes de cette piété populaire auxquels nombre de personnes sont attachées. Et donc, la crèche, finalement, elle fait partie de cette manière d'approcher Jésus. Et je me demande si elle ne facilite pas aussi, des fois, et je pense en particulier, mais pas uniquement, aux plus jeunes, des petits temps de prière, où ils peuvent se prier devant la crèche. Donc finalement, cette piété populaire, eh bien, oui, elle a une histoire, elle a véritablement quelque chose de plongé dans l'histoire, mais qui nous aide tout simplement à aller vers à la fois le mystère et la grandeur de Noël.
Et alors, aujourd'hui, enfin, que se passe-t-il justement, comme les sources qu'on a évoquées donc en première partie deviennent des textes de foi?
Alors, parmi les auteurs quand même que j'ai cités, vous avez compris que tous ne sont pas effectivement des textes liés à la foi. C'est-à-dire que Tacite, qui, vous l'avez compris quand même, n'est pas très chrétien, puisqu'il dit qu'ils étaient détestés, les chrétiens, pour leur turpitude. On sent bien quand même le sénateur romain qui n'a pas de sympathie particulière. Non, vous avez effectivement Tacite, Suétone, confirme plutôt, je dirais, l'historicité de la personne de Jésus et d'une communauté qui se réclame à lui. Par contre, vous avez effectivement des éléments d'évangile qui servent tout simplement notre foi. Ce qui m'interroge, et je n'ai pas de réponse, je ne fais que poser la question, c'est qu'on peut constater que Luc et Matthieu sont utilisés effectivement pour les messes de Noël, mais on ne peut pas utiliser Marc, parce que Marc, par exemple, ne s'intéresse pas à la nativité. C'est assez étonnant. Et quant à Jean, ben, je dirais, il s'intéresse à Jésus, il est déjà en train de commencer sa vie publique. Ouais. Donc finalement, pour Jean et Marc, la nativité, c'est chose acquise. C'est fait, le Christ est incarné parmi les hommes. Et donc, il faut se rabattre vers Matthieu et Luc, qui, eux, alimentent notre réflexion, notre foi. Et je voudrais, si vous me permettez, prendre par exemple l'évangile qui a été lu dimanche dernier à propos de Jean le Baptiste, qui envoie une délégation pour dire, mais enfin, est-ce que c'est toi véritablement le Messie? Ce que il me semble important à retenir, entre autres, de cet évangile, c'est que tout de même, l'annonce de l'incarnation se fait souvent dans l'humilité des hommes. Parce que Jean le Baptiste, si on retient bien la tradition chrétienne, sa peau de chameau, ses sauterelles et son miel, c'était vraiment quelqu'un qui, aujourd'hui, vous l'auriez à SDF, si j'ose dire. Il choquerait. Il ne choquait pas à son époque parce que il répondait à une attente. Mais enfin, il devait irriter bien des notables de son époque. Et finalement, c'est dans cette humilité que cet homme, vivant humblement, annonce l'humilité de Dieu dans la nativité. Parce que, tout le monde le sait parmi nos auditeurs et nos auditrices, mais enfin, le Christ n'est pas né dans le palais d'Hérode ou dans le palais du gouverneur à Césarée maritime. Il est né modestement. Dieu s'est fait homme dans l'humilité. Et je crois que cette humilité peut nous servir aussi à garder dans nos prières, dans notre volonté d'honorer l'incarnation, cette humilité qui doit alimenter notre vie. On est chrétien, on l'affirme, mais sans ostentation particulière et sans orgueil. C'est tout simplement un témoignage qu'on nous demande dans notre vie.
Oui, c'est vrai qu'on prend un exemple vraiment sur la simplicité, l'humilité de l'incarnation. On parlait du coup des évangiles de Marc et Luc qui en parlent du coup très, très concrètement. Mais pour revenir un peu sur Saint Jean, certes, il parle pas forcément de l'incarnation d'un point de vue très concret ou très visible. Mais dans son prologue, il parle quand même du Verbe qui s'est fait chair et il vient quand même annoncer quelque chose.
Alors, je ne dis pas qu'il ne parle pas de l'incarnation, il ne parle pas de la nativité.
Oui, voilà, c'est ça.
La nativité semble fait acquis.
Oui, comme un événement.
Un fait acquis. Alors, est-ce que c'est lié d'ailleurs le fait que c'est peut-être le dernier des évangiles et qu'il estime qu'il n'a pas de
redit à faire ? Ça a déjà été dit. Oui. Ou que, voilà.
Mais je vous rejoins tout à fait. Il est même, si j'ose dire, pétri d'incarnation. Mais c'est plutôt, effectivement, cette idée de la nativité que vous retrouveriez chez Luc et Matthieu. Quant à Marc, observons que lui-même ne traite pas de la question de la nativité.
Là où du coup on peut penser que ce serait peut-être pas forcément par laxisme, juste par comme on l'a dit par acquis, mais d'apporter quand même plus de profondeur sur ce temps-là qui est si important, parce que même si en effet tous les évangiles n'en traitent pas explicitement, c'est vrai du coup voilà on fait ce lien du coup entre la nativité comme événement précis, mais qui vient aussi être la révélation et juste l'accomplissement au final de ce mystère qu'est le mystère de l'incarnation. Et comment est-ce qu'en tant que chrétien, on peut recevoir du coup cette première étape du mystère de la rédemption, en commençant par ce mystère-là de l'incarnation ?
Très difficile question. Ce que je m'efforce d'expliquer quasiment tous les ans auprès d'amis chrétiens ou non chrétiens, éventuellement dans une homélie comme diacre, c'est que le danger qui nous guette, c'est finalement la force de l'habitude. Et c'est-à-dire que, voyez, nous avons l'habitude à 21h de mettre la télévision pour regarder un bon film, ou en tout cas ce qu'on considère comme un bon film. Vous voyez, or, la nativité, ce que je demande vraiment à mes frères et à mes sœurs, c'est d'essayer de voir l'émerveillement que tous les ans nous sommes appelés à avoir. Parce que tout de même, c'est un événement qui, pour nous chrétiens, vous le disiez, Louis-Marie, tout à l'heure, il y a un avant et un après. Et si on commence à banaliser en disant, oui, bon, on va aller à la messe, mais on va chanter les mêmes cantiques, on va sans doute entendre le même évangile, etc. Non, non, il faut vraiment essayer d'arriver, comme ces enfants dont parle aussi l'évangile, avec le cœur simple, et de nous dire, mais Dieu s'est fait homme, et ne nous lassons jamais de le dire, de l'affirmer, parce que pour nous chrétiens, c'est véritablement fondamental. Surtout ne pas banaliser Noël, malgré les habitudes plus ou moins bonnes que nous pouvons avoir.
Merci beaucoup, Philippe Faureau, pour cette
avec grand plaisir. Entretien.
Merci beaucoup. Il est 19h47 sur Radio Présence. Louis-Marie, on se retrouve dans quelques minutes pour une deuxième chronique qui va porter sur quoi ?
Alors cette semaine, on va parler de Saint-Gatien de Tours que nous fêterons jeudi.
Jeudi. Mais avant ça, une petite pause musicale. On part avec Daniel Balavoine. Je ne suis pas un héros sur Radio Présence. Il est 19h48. Très heureux d'être parmi vous pour accompagner votre début de soirée ensemble.
monte sur scène comme on prend le dernier train. Même les soirs de drame, il faut trouver la flamme qu'il faut pour toucher les femmes qui me tendent les mains, qui me crient qu'elles m'aiment et dont je ne sais rien.
h 53 sur Radio Présence, on retrouve Louis-Marie pour sa chronique hebdomadaire. Avec le micro allumé, c'est mieux.
C'est toujours mieux. Cette semaine, donc, je vous invite à faire la rencontre de Saint-Gatien de Tours. Donc, quand on pense à Tours, souvent on pense à Saint-Martin. Mais avant lui, il y avait donc Saint-Gatien qui était le premier évêque de la ville, qui arrive donc à Tours au 3e siècle, à une époque où être chrétien, ça n'a rien d'évident. On l'avait d'ailleurs déjà vu il y a quelques semaines avec Saint-Saturnin, qui est son contemporain. À l'époque, le christianisme était très minoritaire, il était parfois persécuté et même souvent incompris. Donc il arrive dans ce climat presque seul, il est envoyé par l'église de Rome pour but d'annoncer l'évangile dans cette région qui pour l'instant n'est pas encore chrétienne. Donc on va s'intéresser un petit peu à sa spiritualité, qui est une spiritualité plutôt de fidélité dans l'invisible, où pendant des années, en fait, il va prêcher sans avoir de résultats spectaculaires, très peu de conversions, pas vraiment de fruits visibles. Il célèbre l'Eucharistie presque en secret, dans des lieux très discrets, parfois même dans des grottes. Et il cherche pas forcément à bâtir une église triomphante, mais une église qui est humble et très enracinée dans la prière et dans la persévérance. Et ça nous invite à nous poser une question, à nous qui cherchons toujours à avoir des résultats très vite et à voir forcément le fruit de notre travail. Et Saint-Gatien nous interroge à nous demander, est-ce que nous sommes fidèles même quand nous ne voyons pas de fruits? Et cette spiritualité nous rappelle que la foi, c'est pas non plus une performance, c'est une relation. Gatien ne cherche pas à convaincre à tout prix, mais il cherche d'abord à demeurer dans le Christ. Il fait confiance tout au long de Dieu. Et un autre point fort de sa vie spirituelle, c'est son courage dans la tranquillité. Parce que sa vie n'a rien d'un héros spectaculaire, il ne meurt pas en martyr, il ne fait pas de grands miracles connus, mais il tient bon jusqu'à la fin, il reste, il continue d'annoncer, de célébrer et d'aimer malgré l'indifférence et l'hostilité. Et c'est le courage de ceux qui avancent sans applaudissements. Donc dans un monde où afficher sa foi peut parfois mettre mal à l'aise, où on peut parfois se sentir minoritaire dans ses convictions chrétiennes, Saint-Gatien nous murmure qu'il n'y a pas besoin d'être bruyant pour être fidèle, et que sa spiritualité est profondément missionnaire, mais sans agitation, parce qu'il se sépare jamais de l'annonce de l'évangile, et il n'annonce jamais cette annonce de l'évangile qui n'est jamais séparée de sa vie intérieure. Sa mission jaillit de la prière et de son intériorité. Il ne parle pas de Dieu comme d'un concept, mais comme d'une présence réelle qui l'a fait vivre et qui l'habite véritablement. Et c'est sûrement ça le message qui est le plus actuel de Saint-Gatien, c'est qu'évangéliser ce n'est pas d'abord parler plus, mais c'est vivre plus profondément sa vie chrétienne, parce qu'à la fin de sa vie, Saint-Gatien ne laisse seulement une petite communauté, mais une communauté qui est quand même bien forte et bien enracinée. Et en soi, rien d'impressionnant en apparence, mais quelques décennies plus tard, cette communauté chrétienne donnera naissance, ou en tout cas permettra d'accueillir un très grand saint, qui est le saint de Saint-Martin de Tours. Et donc autrement dit, sans Saint-Gatien, pas de Saint-Martin, et donc sans fidélité cachée, pas de fécondité visible. Alors aujourd'hui, si on a l'impression que notre foi est modeste, fragile ou même un peu invisible, Saint-Gatien nous dit que c'est parfois là que Dieu travaille vraiment.
Merci beaucoup Louis-Marie. Avant de conclure cette émission ensemble, Philippe Fourou, vous aviez quelques ouvrages à nous conseiller.
Oui, je reprends quelques instants la parole parce que à quelques jours de Noël, j'aurai peut-être quelques conseils de lecture dans une immense bibliographie et il y aurait de beaux cadeaux à faire. Je conseille en particulier dans la collection Bouquins, le dictionnaire Jésus, qui a été dirigé par le frère Renaud Silly, qui est dominicain au couvent de Rangueil, et il a mis en orchestre finalement de quelques dizaines de contributeurs, et c'est un ouvrage passionnant où l'on peut papillonner à la découverte justement de ce Jésus, de la théologie, de l'histoire, de l'exégèse. Et puis un autre livre, en fait c'est 4 volumes de John Paul Meyer, Un certain juif Jésus, les données de l'histoire. Le père Meyer est un père jésuite dans l'archidiocèse de New York, et au début de notre siècle, il a publié 4 volumes qui sont absolument passionnants. Alors, je ne dirais pas indépassable, mais enfin, si vous cherchez à cultiver votre foi, n'hésitez pas avec ces lectures. Et heureux Saint-Noël.
Merci beaucoup, cher Philippe. C'est déjà la fin de notre émission. Il est 19h57. Dans quelques instants, vous retrouvez Des Clés pour Vivre avec Nathalie Cardon. Louis-Marie, on se dit pas la semaine prochaine, ce sera une rediffusion, mais dans 2 semaines, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça, ce sera avec grand plaisir.
Avec grand plaisir pour vous accompagner dans ce début de soir ensemble. C'était Sauf Autre Chose, votre émission en direct tous les lundis à 19h sur Radio Présence. Très bonne fête à vous, heureux et Saint Noël, nous prions bien pour vous et soutien aux étudiants qui ont leur partiel.
C'était Soif d'autre chose, une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.